Religion du Monde, Véronique Guémard.
Bonjour à toutes et à tous. Comment se reconstruire lorsqu'on a été victime d'agressions sexuelles par une personne représentant l'Église catholique ? Des actes irréparables et destructeurs. C'est un processus long et douloureux qui commence par l'écoute et la reconnaissance des violences subies. En France, depuis la publication en octobre 2021 du rapport de la CIAZ, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, un travail d'écoute et de prévention a été entrepris au sein de l'Église catholique et des congrégations religieuses, même s'il n'est pas suffisant. Dans cette émission, nous vous proposons de suivre une initiative lancée par la Compagnie de Jésus pour la province occidentale francophone qui comprend France, Belgique, Luxembourg, Grèce et Maurice. La Compagnie de Jésus étant répartie géographiquement dans le monde à travers ce qu'ils appellent des provinces. Pour la première fois, une journée mémorielle était organisée à Paris le 1er mars 2025 entre jésuites et victimes agressées par des prêtres jésuites. Des témoignages forts et un partage d'émotions et de récits qui peuvent aider à la libération de la parole d'autres victimes. Nous sommes dans les locaux des facultés Loyola de la Compagnie de Jésus à Paris. Une centaine de personnes se sont réunies à huis clos ce samedi 1er mars au matin. Des prêtres jésuites, des personnes victimes d'abus sexuels commis par des jésuites. Un temps d'échange très dense, très fort, comme en témoigne Thierry Dobbenstein, supérieur provincial des jésuites d'Europe occidentale francophone, donc pour la France, la Belgique, la Grèce et Maurice.
Cette journée mémorielle qui vient de se terminer a été l'occasion d'un partage d'émotions très très fortes. Nous avons pleuré ensemble, nous avons vibré ensemble, nous avons vécu aussi une tension incroyable ce matin lorsqu'il y a eu une vingtaine de témoignages qui ont été prononcés l'un à la suite de l'autre. D'abord, je dirais que c'est dur, mais l'objectif de cette journée mémorielle était justement de vivre cela ensemble. Un ensemble de personnes qui ont été victimes d'agressions et d'abus en présence d'un grand groupe de jésuites. Pour moi, c'était très touchant de voir qu'il y avait des jésuites de l'ensemble de ma province, donc de tous les six coins de France, de Belgique francophone, du Luxembourg. Certains ont fait des centaines de kilomètres pour venir ici. C'était des jésuites qui allaient de 31 ans à 97 ans. C'est ensemble que nous avons entendu les témoignages et que nous avons partagé ces émotions. Un moment très fort pour moi a aussi été de voir un de mes compagnons jésuites éclater en larmes et consolé par une personne victime. Voilà. C'était l'illustration de cet ensemble. Après, vivre une telle journée mémorielle, c'est quelque part descendre un peu dans la vallée, dans l'enfer que des personnes qui ont été victimes de prêtres et de religieux ont vécu dans leur enfance ou parfois dans l'âge adulte, mais où elles ont été confiées, où elles se sont confiées à un prêtre religieux et qui a profité, on va dire, de cette situation pour les massacrer, les détruire, parfois même en utilisant explicitement le nom de Dieu, en citant l'Évangile. En faisant cela, ces jésuites, ces religieux ont commis des dommages incommensurables et nous prenons progressivement conscience de l'intensité, de la profondeur de la souffrance chez les personnes directes, mais aussi chez leurs proches, c'est des époux, c'est des épouses. Certains de ces époux et épouses étaient d'ailleurs présents ici à la journée mémorielle. Et ici, à l'instant, une personne victime disait mais vous, jésuites, vous êtes dans le cercle suivant des victimes. Et effectivement, si c'est dur pour les personnes victimes directes, pour nous, prêtres et religieux, c'est aussi très difficile parce qu'ils ont foulé aux pieds, ils ont écrasé, ils ont massacré ce en quoi nous croyons. C'est-à-dire la grandeur de l'accompagnement, la richesse des sacrements, la beauté du Christ et de l'Évangile, et tout ça, ils n'ont pas seulement abîmé des personnes victimes, mais ils ont aussi abîmé cela.
Christine a pris la parole lors de cette journée mémorielle. Elle a été victime d'agressions sexuelles il y a plus de 30 ans par un prêtre jésuite lors d'une retraite spirituelle. Ce prêtre prédateur lui susurrait des mots à l'oreille. « C'est Jésus qui me donne cette tendresse pour toi, ne le dis à personne. » Elle était pétrifiée. Christine a gardé le silence. Elle a tout enfoui dans un tiroir pendant 30 ans. Et puis un jour, tout est revenu.
Je crois que ça a été vraiment l'invitation de Benoît XVI qui m'a interpellée. Des appels à ce qu'il y ait plus de clarté dans l'Église, qu'on reconnaisse un peu plus tous ces abus. Et ça m'a interpellée parce que j'étais dans ce questionnement, mais quand est-ce que je vais enfin sortir du silence ? Parce que même si c'était bien rangé dans un tiroir, comme je le disais lors du témoignage, ça me taraudait. Je ne pouvais pas rester sur ce non-dit de ma vie.
Qu'est-ce que vous avez mis dans un tiroir d'une commode, comme vous l'aviez dit effectivement lors de votre témoignage?
Oui, c'est un abus sexuel, alors que j'étais jeune femme et que lui avait 70 ans. Et ce jésuite, Jean Fournier, a abusé de moi. Ça a été un grand bouleversement dans ma vie qui a remis beaucoup de choses en question. Et pour me protéger, j'ai mis dans un tiroir parce que je ne pouvais pas affronter la vérité ni la confrontation avec lui. Donc voilà, je me suis protégée, disons voir.
Et donc 30 ans après, vous sortez de ce silence. Comment? Qu'est-ce que vous faites?
En premier, j'en ai parlé à mon mari qui a été abasourdi, qui vraiment n'y croyait pas. Mais en même temps, il m'a dit « je te crois, je te fais confiance, je sais que tu dis la vérité ». Et après, progressivement, j'en ai parlé à quelques proches. Et là, j'ai senti déjà la virulence émotionnelle que je n'appréhendais pas du tout. 30 ans après, une virulence émotionnelle énorme. Et malgré ça, j'ai senti que c'était important que je continue à parler. Et il s'est trouvé que aussi en 2018, nous avons eu un nouvel évêque qui m'a paru très très simple, très abordable. Et avec lui, je me suis dit que je pouvais libérer la parole. Et donc je suis allée le voir, et c'est par lui que j'ai eu le courage de me tourner vers les jésuites et rencontrer le provincial de l'époque et démarrer cette démarche de dire la vérité, quoi, de dénoncer cet abus. Et il y a eu des difficultés parce que le dossier a été caché, égaré. Enfin bon, on est retombé sur le dossier et il y avait d'autres victimes. Donc ça aussi, quelque part, ça apaise de savoir qu'on n'est pas seul, hein, que ça a été un prédateur.
Et vous-même, donc, par ce travail aussi de cette journée mémorielle, vous avez travaillé sur cette journée depuis plusieurs mois. Oui. Construire une journée mémorielle, en quoi ça consiste? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qui faisait partie de ce groupe?
C'était d'autres personnes victimes qui avaient ce désir de travailler avec les jésuites. Donc une volonté de revivre une sorte de réconciliation avec eux, parce que tous ne sont pas coupables et il y a des victimes collatérales de leur côté aussi. Et c'était ce désir de travailler ensemble à élaborer quelque chose et en collaboration aussi avec les juges. Ça, c'était vraiment nouveau pour moi. Ce travail clergé et laïque ensemble, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi.
Qu'est-ce qui vous a marqué en particulier dans cette journée?
Ce matin, c'était éprouvant parce qu'il y a eu 20 témoignages de personnes qui s'étaient signalées aux jésuites, mais qui n'avaient encore jamais témoigné. Donc c'était très dense, très lourd. Cet après-midi, oui, c'était le fruit de notre travail. Donc une belle collaboration qui aboutissait, qui prenait forme, qui était belle, avec une œuvre d'art aussi qui a son sens. Donc voilà. Vraiment l'aboutissement d'une volonté de créer quelque chose ensemble.
Ce silence sur ces actes d'une extrême violence a été évoqué par l'un des participants à cette journée mémorielle, Patrick Goujon, lui-même théologien jésuite et victime d'agressions sexuelles par un prêtre dans son enfance, qui ont causé une amnésie traumatique pendant plus de 40 ans. Bimal, lui, a mis plus de 38 ans à sortir du silence. Sa mère, mauricienne, l'avait confiée à sa grand-mère sur l'île Maurice pour partir travailler en Belgique où elle s'est mariée. Avec son mari, elle a fait venir son fils Bimal, alors âgé de 6 ans, en Belgique. Son beau-père était très violent avec lui. Et c'est lui qui a introduit dans sa maison le père Marc de Clercq, qui deviendra le prédateur sexuel de Bimal.
Moi, mon histoire, elle commence à partir de l'âge de 9-10 ans. C'était l'anniversaire de mon frère qui venait de fêter ses 4 ans. Pour la première fois, j'ai vu mon prédateur, donc Marc de Clercq, qui était un ami de mon beau-père. Donc ce Marc de Clercq travaillait au collège Saint-Michel, et mon beau-père aussi, comme nettoyeur, donc au Sania Mantoula. Et petit à petit, il venait souvent à la maison, le week-end surtout, et il restait dormir. Alors la première fois, il a dormi dans le salon, et je ne sais pas pourquoi, comment ça s'est fait, mais je crois qu'on avait des invités, donc les invités ont pris ma chambre, et moi j'ai dormi dans le fauteuil, et il y avait un matelas que mon beau-père avait mis, mais il était à côté du fauteuil où je dormais, donc le long fauteuil. Et donc je dormais, et à un certain moment, ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti qu'il y avait quelque chose de pas normal. J'ai un peu ouvert les yeux et j'ai vu ce jésuite avoir mon sexe dans sa bouche et à jouer avec. Et voilà. Et j'étais pétrifié. Je ne
Vous
savais
aviez
pas.
quel âge?
J'avais 9-10 ans et je ne savais pas quoi faire. J'étais tétanisé. Donc j'ai fait semblant de dormir, de rien. Et voilà. Et puis il a arrêté. Et puis ça s'est arrêté là. Et je m'éloignais de lui quand il venait à la maison. Et puis quelques temps plus tard, il a proposé de m'emmener de faire des spectacles de magie. J'étais fasciné parce que je voyais ça, c'était bien et tout ça. Je me suis dit, bon, ben, il va pas recommencer un truc comme ça. Et pourtant, ça s'est reproduit plus d'une vingtaine de fois. Ça fait, je crois, 38 ans que j'ai gardé ça en moi. Et ça fait que 4 ans que j'en parle. Bon.
Mais récemment, c'est-à-dire que sur le moment, quand
Oui,
ça se
oui.
produisait, vous
Non,
n'en
non, non,
parliez
non,
pas
non.
à vos parents.
À personne, à personne, à personne.
Bimal est venu de Belgique à la journée mémorielle à Paris avec Claire, une amie très proche, qui l'a accompagnée et aidée à sortir de son silence. Elle se souvient de ce prêtre jésuite à l'époque où Bimal était très jeune.
Moi, là, j'avais rencontré son prédateur, en fait, la première fois qu'il est venu à la maison. Et j'avais 16 ans, j'étais responsable d'un mouvement de jeunesse dans lequel il était en fait. Et là, quand je l'ai vu, je me suis dit qu'il n'avait pas un comportement normal avec Biman. Donc j'ai tout de suite alerté la maman en disant, fais attention à ce monsieur, mais j'avais que 16 ans. C'est déjà pas normal qu'il prend Biman sur ses genoux, qu'il lui montre comment aller par un plan de Bruxelles de chez toi à chez lui tout seul en tram, alors qu'il a 8 ans ou 9 ans, je sais plus quel âge il avait.
J'avais
9 ans, je crois.
9 ans.
Donc je dis, ça se fait pas d'un homme seul. Et elle me dit, non, mais il n'y a pas de souci, c'est un père jésuite, donc il n'y a pas de problème. Et donc moi, avec mon jeune âge, voilà, je me suis tue après, mais avec toujours ça dans la tête, que j'étais sûre qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Et donc quand il me l'a dit il y a 3-4 ans, là seulement, il me dit, tu te rappelles que tu avais alerté maman pour Marc de Clercq? Et je dis, oui, très bien, parce que ça m'aurait toujours resté là. Et il me dit, t'avais raison. Mais là, j'ai eu vraiment les jambes coupées et je me dis, c'est là que je me réalise que c'est pas normal qu'il y ait prescription. Parce que les victimes, elles peuvent pas se dire avant, il faut qu'il y ait tout un cheminement. Ici, c'est un psychiatre qui a réussi à débloquer la parole. Mais donc, que ce soit via les prédateurs de l'Église ou dans le civil, mais il ne devrait pas y avoir de prescription pour ce genre de fait, en fait.
Ouais.
Et s'il a été abusé tellement de fois, il ne l'a pas dit, mais c'était aussi pour protéger son petit frère, pour que son petit frère ne soit pas dans les griffes de ce prédateur. Et donc, c'est là que je pense aussi qu'il y a d'autres victimes, puisqu'il essayait d'avoir le petit frère.
De nombreuses victimes de ces prédateurs sexuels dans l'Église racontent comment ces agressions sexuelles les ont consumées et détruites de l'intérieur. Ce sont ces témoignages de douleur et de souffrance que le provincial jésuite Thierry Dobbelstein a aussi recueillis plusieurs décennies après les faits.
Mon travail a été, avant d'être provincial, j'ai été assistant du provincial, donc assistant de mon prédécesseur. Et j'ai été habitué à rencontrer des personnes qui venaient apporter leurs témoignages. J'ai été touché par leur crédibilité, par la manière dont elles parlaient. Elles venaient déposer leur souffrance en apportant des détails précis sur ce qu'elles avaient vécu et surtout ce que ça avait produit à l'intérieur de leur vie. Ça ne vous laisse pas indemne. C'est évident que ces personnes-là, ces premières personnes qui sont venues, elles m'ont aidé quelque part, elles ont transformé mon regard pour les dizaines de personnes qui sont venues par la suite. Il n'empêche que quand vous avez la responsabilité et quand ça concerne un cas actuel, c'est vraiment des cas de conscience qui sont extrêmement difficiles. Vous vous rendez compte aussi, à l'heure actuelle, quand cela concerne des jésuites qui sont vivants, notre politique, c'est nous transmettons aux autorités judiciaires. Car justement, c'est difficile pour moi d'être juge et partie. Et donc, c'est important que les personnes qui sont mandatées pour pouvoir trancher où se trouve la vérité, quelle est l'intensité de la gravité de ce qui a été commis, mais que des professionnels puissent se prononcer là-dessus.
Bimal, lui, a sombré à l'adolescence dans la délinquance, se noyant dans l'alcool et des drogues dures. C'est grâce à des proches qu'il a pu refaire surface et à un psychiatre et un psychologue. Il doit encore prendre des médicaments pour dormir. Il essaye de se reconstruire avec l'aide d'associations, de ses amis, de sa femme. Il espère que justice sera rendue. Il avait d'ailleurs pu rencontrer son prédateur.
La Compagnie des Jésus a réussi à faire un rassemblement pour que je voie mon prédateur et lui dire ce que j'avais sur le cœur.
Ah, vous avez réussi à le rencontrer?
Oui, il est toujours vivant. Il est dans un home, derrière le collège Saint-Michel d'ailleurs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il continue à vivre sa vie dans ce home. Et
il vous a dit quelque chose?
Non, il n'a rien dit. En 2021, par contre, j'ai déposé plainte contre lui. Le policier qui a pris ma déposition l'a interrogé, il a tout à fait nié de ne pas me connaître, de rien avoir fait et tout ça. Et puis quand en 2024, la Compagnie des Jésus a fait la possibilité que je le rencontre, et là je lui ai sorti tout ce qui m'avait fait de mal, avec ma photo quand j'étais jeune, plus jeune, parce que si c'est pas facile de reconnaître une personne adulte, donc j'ai pris quand j'étais jeune. Il a regardé la photo, il n'a rien dit. Tout le mal qu'il m'a fait, les choses abjectes, les fellations forcées, les touchés, les attouchements et tout ça. Enfin, voilà, soit. Et pour finir, il a acquiescé. Il a dit oui à tout ce que je disais. Et j'ai redéposé une plainte, mais cette fois-ci contre mon beau-père, parce que c'est lui qui l'a ramené à la maison, ainsi contre Marc de Clercq aussi. Et là, c'est toujours au parquet. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Mais j'espère qu'ils vont quand même prendre une décision assez sévère ou assez juste. Parce que c'est la justice que je recherche.
Aux facultés Loyola à Paris, en début d'après-midi, tous les participants, jésuites, victimes et leurs proches, étaient invités, pour celles et ceux qui le souhaitaient, à un temps de prière dans l'église Saint-Ignace. Des prières à l'intention des personnes victimes d'agressions sexuelles commises par des prêtres jésuites. L'un des prêtres dit l'évangile selon saint Matthieu.
Seigneur, toi qui vois la misère de ton peuple, qui entends ses cris sous les coups, qui connaît ses souffrances, nous confions encore à ta bonté et à ton amour infini toutes les victimes de violence dans ton Église.
Une danseuse habillée d'une robe à très longues manches, rallongée de bâtons, déploie un tissu blanc et trace des figures dans l'espace. Les participants se sont ensuite rassemblés dans un amphithéâtre avec des prises de parole, des lectures de poèmes et la présentation d'une mosaïque couleur noir et or parsemée d'incrustations. Cela représente la fragmentation de nos êtres, une reconstruction. On tente de recoller les morceaux, dit Sœur Samuel, qui a créé cette mosaïque. Elle-même a été l'une des nombreuses victimes du prêtre mosaïste slovène Marko Rupnik, un jésuite très protégé, dont les œuvres ornent de nombreux bâtiments religieux dans le monde. monde, comme le Vatican ou le sanctuaire marial de Lourdes. Marco Rupnik a été expulsé de la Compagnie de Jésus après plusieurs plaintes de violences sexuelles et spirituelles sur des religieuses. En octobre 2023, le pape François avait fini par lever la prescription pour permettre la tenue d'un procès. Une enquête a été ouverte par le Vatican, mais le dossier reste dans le flou. La mosaïque et la ligne de fracture, c'est aussi ce que ressent Christine.
On se reconstruit, on ne répare pas. C'est ce que les remarques qu'on se faisait. On ne répare jamais vraiment. La fissure est là, la cicatrice est là. Elle guérit, mais elle ne se répare jamais. Elle est là pour nous rappeler qu'il y a eu quelque chose. Mais on apprend à vivre avec, comme je le disais aussi pendant mon témoignage, et de ne pas être seul, de savoir que d'autres sont passés par là, parfois même par des galères bien pires. Je crois que ça aide à cheminer, à continuer la route.
Et votre regard par rapport à l'Église, à l'institution et à Dieu, à la foi?
Comme je le dis dans mon témoignage, j'ai toujours gardé la foi. Par contre, j'ai douté. J'ai douté de l'Église, j'ai douté du clergé, j'ai douté des prêtres. Mais ma foi en Jésus-Christ est restée très forte et pour moi, c'est une grâce.
Et votre regard sur la façon dont le pape François a traité ou s'est emparé de ce sujet en particulier?
Moi, je pense qu'il s'en est bien occupé, mais je suis déçue par ce qui s'est passé en Belgique, de sa réponse un peu... On lui a demandé, est-ce que vous vous sentez responsable de ce qui s'est passé, de la non-dénonciation de ces abus en Belgique, etc. Et il a dit, l'Église, c'est pas moi, c'est pas les évêques, c'est pas les prêtres, c'est vous, 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 en désignant les laïcs qui étaient présents.
Donc il aurait fallu qu'il aille plus loin et qu'il dise avec d'autres mots.
Oui, et puis qu'il leur signifie qu'il est avec eux, qu'il est solidaire avec toute cette souffrance et qu'il y a du chemin pour essayer de rectifier, réparer ce qu'on peut réparer.
À l'issue de cette journée mémorielle, nous avons rejoint le provincial jésuite Thierry Doppelstein, la responsable de la cellule écoute de la Compagnie de Jésus, Agnès de Lépine, et des victimes dont Christine, que nous venons d'entendre, et Jean-Marc Turine de Belgique, qui avait livré son récit dans un livre en 2022 intitulé « Révérend Père ». Il a fait partie des 17 victimes d'abus sexuels qui ont pu rencontrer le pape François lors de sa visite apostolique en Belgique en septembre 2024.
Je ne sais pas s'il y avait une véritable attente ou espérance. Enfin, je viens de Bruxelles, donc je fréquente aussi des gens en Bruxelles, aussi bien de la communauté flamande que de la communauté francophone, qui ont été abusés. Enfin, j'en connais que deux qui ont été abusés par des jésuites. Tout le reste, ce sont des prêtres séculiers, dans les paroisses ou ailleurs. Et ils sont sidérés lorsque j'explique, ne fût-ce que l'approche qui a été faite, que les jésuites ont menée. C'est-à-dire que c'est Thierry Doppelstein qui a envoyé un message à France Culture lorsque mon texte y est passé il y a 2 ans, 3 ans, et que rien de cela ne se passe dans l'Église de Belgique. Ils font des grands projets, ils font ceci, ils déclarent cela, mais les évêques se défilent autant qu'ils peuvent. Il n'y a rien qui avance. Ça a été de nombreux, presque refus d'écouter. Quand même. En Flandre, il y a eu quelque chose de fondamental qui s'est passé il y a 2 ans, c'est la diffusion de 4 documentaires qui s'appellent Godvergeten. Ça signifie les oubliés de Dieu. Et ça a fait un tabac extraordinaire en Belgique, parce que ce documentaire de 4 heures, qui relate avec une dignité exemplaire ce qui s'est passé ici, il y a des millions de Belges qui ont pris conscience de ce qui s'était passé au sein de l'Église. Mais quelques semaines plus tard, c'était la révélation de ventes de nourrissons au sein de couvents en Flandre entre 1948 et 1980. Des milliers d'enfants ont été vendus. Et à ce moment-là, il y a eu le pape. Il y avait cette visite du pape. Le pape ne pouvait pas venir en Belgique sans considérer cet afflux de témoignages au sein de l'Église, qui était un déballement, mais alors par dizaines, si pas plus. Et le pape en a reçu une quinzaine. Alors moi, je ne vais pas parler au nom de ceux qui l'ont vécu. Moi, j'ai vécu ça comme un échec total, cette rencontre. Il n'y a rien eu. Rien. Ce sont des paroles de pardon, de machin, de je ne sais pas quoi. Mais il n'y avait pas d'âme. Voilà. Pour moi, il n'y a pas d'âme. Ici, j'ai rencontré quelques-uns des jésuites avec qui j'ai travaillé pendant ces réunions. Et oui, il y avait une âme. Enfin, me dire qu'il n'est pas l'Église, que les évêques ne sont pas l'Église, je ne sais pas ce qu'est l'Église et qui est l'Église. Donc cette espèce d'hypocrisie comme ça, qu'ils ne veulent... à mes yeux, c'est abject. Mais je sais aussi qu'il y en a beaucoup, l'essentiel. Sur les 19, il y en a... je crois que je suis le seul vraiment critique. Les autres ont été tout à fait agréablement, mais plus qu'agréablement... un ressenti vraiment de compassion de la part du pape, etc., parce qu'il y a eu, il nous a parlé quand même. Enfin, il n'a pas dit grand-chose, mais il a parlé à chacun. Je ne sais pas ce qu'il a dit à chacun. Mais il est passé à côté, je trouve. Il est passé à côté d'une simplicité, de la simplicité, tout simplement. De la simplicité.
Je pense que toi, tu attendais qu'ils reconnaissent quelque part qu'ils soient le berger. Tu te souviens, un jour, pendant le travail du collectif, j'avais dit ça. Si à un moment donné, le prêtre ou l'évêque ou le pape ne se reconnaît pas le berger de son peuple, mais qui est-ce qui prend soin alors des brebis? Et j'entendais après un commentaire qui disait la brebis, c'est un des animaux le plus vulnérable. Quand on ne s'occupe pas d'une brebis, elle meurt. Et bien voilà, c'est ça l'image qu'il faut donner aux pasteurs, aux prêtres, de s'occuper de son peuple. Et toi, tu attendais ça, qu'ils te disent il ne l'a pas dit.
Et que diriez-vous aujourd'hui de la façon dont les jésuites accueillent votre parole? Est-ce qu'ils prennent davantage leurs responsabilités?
Moi, je le sens depuis tout ce travail qu'on a fait ensemble dans notre collectif. Ils ont été présents, ils ont eu un partage d'indignation avec nous, ils ont une écoute, comme j'ai rarement entendu pour le moment, auprès de prêtres. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'ils n'ont pas eu peur de vivre ces moments avec nous, qui ont été par moments tragiques. Très dur, très dur. Et où il a fallu prendre des longs temps de récupération, de silence. C'était terrible, les premières rencontres. Hein. Et après, on a pu ensemble échafauder tout un plan d'attaque, parce qu'il fallait créer tout cet événement. Hein. Et il y a eu des tensions aussi, parce que certains voulaient un temps très sobre, pas de côté artistique non plus. Et puis en fait, on a quand même opté pour ça, pour un peu soulager l'atmosphère, hein, c'était lourd hein, quand même.
Enfin, moi, j'ai fait partie des alcooliques anonymes parce que je suis un alcoolique profond. Enfin, maintenant, je ne bois plus. Enfin, je suis abstinent, comme on dit. Mais c'est pareil. Il n'y a jamais de jugement. Tu sais à qui tu parles. Tu sais ce que la personne en face de toi, même si tu n'as pas la moindre connaissance de sa vie, ni rien, même si tu la rencontres la première fois, tu reconnais quelqu'un sans la connaître. Et c'est pareil pour ce genre de travail ici. C'est celui ou celle qui est en face de toi, il n'y a pas de jugement, tu ne juges pas. Tu sais ce qu'il a vécu, même sans le savoir. Et c'est ça que je trouve la force qui est arrivée dans ce groupe avec, ça s'appelle une amitié quand même, qui est là. Même si on ne se connaît pas, il y a quelque chose de spontané et d'évident surtout, d'une évidence. L'évidence qu'en face, tu reconnais. Tu sais qu'en face, la personne est foutue, comme toi. Voilà, chacun s'en sort comme il peut. Avec la foi ou pas la foi, avec la pratique ou pas la pratique religieuse. Mais tu te démerdes et c'est pour tout le monde pareil, je crois.
Pour moi, cette journée...
Agnès Delépine, responsable de la cellule Écoute de la Compagnie de Jésus.
D'abord, je suis contente d'être à ce soir. Pour moi, ça a été un défi qui a été relevé. Le défi, ce n'est pas de la performance, c'est vraiment d'ouvrir cette parole et de permettre la parole de toutes les personnes victimes qui l'ont demandé. Et c'est quand même un sacré défi. Le deuxième défi qui me semble important, c'est ce travail ensemble. Pour moi, qui suis à la cellule depuis 3 ans, c'est la première fois que je travaille réellement avec un groupe de personnes victimes. Et c'est transformatif par rapport à ma manière de travailler. C'est nourrissant aussi, ces échanges. Jean-Marc parlait d'une certaine amitié qui naît. Et dans l'amitié, on peut se comprendre mieux. Ce que j'en retire, c'est vraiment cette expérience de co-construction. Et ça a été du début à la fin. Et de ne pas penser pour l'autre. Parce qu'on veut faire du bien quand on est à la cellule, c'est ce que l'on cherche. Mais tout ce travail qu'on a fait en co-construction, c'est autre chose que de faire des propositions à une personne. C'est vraiment de travailler ensemble. Et en fait, c'est ça qu'on a vécu et qui, moi, m'a édifié. Et du coup, ça va porter du fruit. Mais je ne sais pas quel fruit. Et Christine me disait il y a quelques jours en disant « Mais on ne va pas s'arrêter là, Agnès, on ne va pas s'arrêter là. » Et il y a cette espèce d'élan où on voit que maintenant, on va être obligé de travailler ensemble. On doit pouvoir faire mieux ensemble.
D'autres d'autres victimes qui ont pu témoigner dans la matinée ont tiré un bilan positif de cette journée mémorielle. J'ai retrouvé Roland, un nom d'emprunt avec lequel il avait signé son témoignage avec d'autres victimes dans un livre en 2024 intitulé « Quand le diable a revêtu l'habit » aux éditions Cartala.
Bon, alors déjà, c'est un moment que j'attendais depuis longtemps. Bon, ça m'apporte aussi, bien sûr, c'était très très bien de pouvoir témoigner, de rencontrer d'autres victimes, ça c'est très important. Et la preuve, bon, j'ai retrouvé des bénévoles qui ont travaillé dans l'association dans laquelle j'étais, où il y a eu des abus. Et donc c'est cette journée qui a permis que je puisse discuter avec elles.
Il y a aussi un appel à témoins qui a été lancé par la Compagnie de Jésus sur la personne qui vous avait agressé, vous, directement. Donc un religieux qui s'appelait Louis Mouren et qui est décédé.
Oui. Donc il y a eu un appel à témoins qui a été lancé ce 20 février. C'est un appel à témoignage via un communiqué de presse. Donc ça c'est pareil, c'est un communiqué de presse que moi j'ai demandé, ça faisait depuis un bon moment aux jésuites. Ça a pris du temps, mais ils l'ont fait. Ça c'est très très bien. Et en plus, ils m'ont permis aussi de donner l'autorisation de retourner aux archives pour pouvoir consulter les 6 cartons concernant l'association Les Liens Brisés que j'aurai Louis Mouren. Donc je trouverai certainement d'autres informations concernant Les Liens Brisés, peut-être même des noms d'enfants, etc. Voilà. Moi, ce que je demande aussi aux jésuites encore aujourd'hui, c'est qu'ils produisent la liste des jésuites incriminés, le lieu où ça s'est passé, l'année où ça s'est passé. Et puis on verra bien, hein. Sinon ben, moi je continuerai un petit peu quand même. Mais bon, je répète que je n'en veux pas aux jésuites, que je continue, moi c'est par rapport à mon agresseur. Louis Mouren, voilà.
Écoutez le provincial jésuite de la province occidentale francophone, Thierry Doppelstein, à propos de cet appel à témoins concernant ce jésuite, Louis Mouren.
Au cours de notre journée mémorielle, la personne victime qui nous avait contacté il y a déjà quelques années, qui est aussi passée par la commission reconnaissance et réparation, souffre d'être toujours la seule personne à l'heure actuelle qui se soit manifestée, qui ait osé sortir du silence. Or, au vu du type d'agression, mais aussi du nombre d'enfants, adolescents que le père Mouren a fréquenté, il est plus que probable qu'il y a d'autres personnes. Je peux témoigner d'ailleurs que pour toute personne victime, lorsqu'elle découvre qu'elle n'est pas la seule. À la fois, elle se dit, c'est triste pour cette autre personne, je suis bien placée pour mesurer ce qu'elle a subi, et en même temps, elle vit cette révélation de ne pas être la seule comme un soulagement, en disant, ah oui, donc je n'ai vraiment aucune culpabilité, la faute n'est pas de mon côté, car cela fait partie de tout le problème de ces agressions, c'est que ça jette de la confusion et un sentiment de culpabilité sur la personne qui n'a rien à se reprocher, mais qui est victime. Il y a comme un rebondissement de son être de victime.
Sentir qu'on n'est pas le seul, c'est aussi ce que nous dit Bimal à l'issue de cette journée mémorielle.
Cette journée, ça m'a aidé à voir que je n'étais pas le seul à être victime de ce genre d'abus et à entendre tous les témoignages des gens. Il y avait des gens de mon âge, des plus jeunes et des plus âgés aussi.
Qu'est-ce que vous attendiez des responsables jésuites, par exemple ?
Ben, qui tiennent leur parole, ils ont tenu leur parole. Donc ça veut dire qu'ils ont fait le nécessaire, ils ont fait leur enquête, ils ont fait leur part des choses. Ils ont reconnu, donc j'ai vu le provincial qui m'a remis une lettre d'excuse de la part de tous les jésuites de France et de Belgique et du Luxembourg. Je sens qu'il faut que je continue, je suis un survivant, j'ai plus envie d'être une victime. Voilà quoi.
Bimal, lui, sait qui est son agresseur. Il dit son nom, il l'a dénoncé et a porté plainte contre lui, nommément auprès de la police en Belgique. Mais pendant longtemps, beaucoup n'ont pas osé dire les noms, dénoncer. Comme Jean-Marc Turine et Christine qui échangent à ce propos avec Agnès Delépine de la cellule Écoute.
Jusqu'à la fin, ou à peu près la fin, tu avais dit que tu voulais rester anonyme.
Oui.
Et qu'à un moment, je ne sais pas ce qui t'a fait basculer. Mais non, c'est pas moi, mais c'est l'ensemble du travail.
C'est toi qui m'as fait basculer. Je me suis dit, je ne peux pas rester tiède à côté de toi qui te bat comme un... Parce que tu veux que ça avance, parce que tu veux que ça n'arrive plus jamais, parce que tu veux que ça soit dénoncé, que les gens soient protégés, que les enfants soient protégés. Voilà. Et c'est toi qui m'as donné ce courage. Je ne sais pas si c'est magnifique, mais c'est toi qui m'as aidé.
Oser raconter, dis ce qui s'est passé. Pour toi un peu, mais pour les autres aussi. Si tu as des enfants, tes enfants. C'est horrible ce qu'on leur a fait vivre à ces enfants.
il y a eu de l'admiration les uns pour les autres, chacun voyant à la fois la souffrance de l'autre et en même temps sa capacité à être survivant à sa manière. Et en se disant, bah, ah ouais, mais ça, il, par exemple, c'est l'exemple qui a été donné, il peut maintenant nommer son agresseur. Et ça, on a vu que ça avait cheminé. Et il y a eu une interpellation une fois, mais si tu ne veux pas le nommer, c'est que tu n'as pas pris encore la distance qu'il fallait. Mais avec de l'humanité, ce n'était pas du jugement. Et ça a été entendu comme une interpellation, et ça a fait avancer. Enfin, voilà.
Parce qu'encore il y a quelques temps, je demandais à Grégoire, il a lu mon témoignage, et puis il me dit, mais en fin de compte, Christine, tu ne dis pas le nom. Je dis, mais Grégoire, je ne sais pas ce que je dois faire, mais il faut le dire. On a tous dit les noms. Déjà aussi pour Grégoire me disait, pour éviter les confusions, parce qu'il me dit, il y a d'autres jésuites qui ont fait des écoles de prière, et il ne s'agit pas qu'il y ait de confusion non plus, hein, que ça soit juste. Et il y a ceux qui n'ont rien fait et ceux qui ont fait. Voilà, c'est une justice aussi. Hein. Et ce que je dis, on ne demande pas le pardon de ceux qui n'ont rien fait, qui ont été dans leur clou toute leur vie.
Moi, qui suis en fait ni jésuite, ni personne victime, j'avais cette place aussi d'émerveillement, peut-être plus facile, de voir ces interactions et comment chacun se libérait et avait une simplicité. C'est la simplicité qui a fait qu'il y a eu co-construction possible.
Mais tu sais, Christine, moi, je n'ai jamais donné les noms. C'est la première fois. Enfin, je crois même qu'en septembre, avec le pape, là, je crois que je n'avais pas encore décidé de donner les noms. Je ne voulais pas que, par exemple, un frère ou une nièce, une sœur, un neveu, puisse ressentir de la honte par rapport à ce que tel bonhomme avait fait. Aujourd'hui, je sais que c'est une erreur. Mais je sais aussi qu'à 11 ans, j'étais chez les flics à Bruxelles parce qu'il y avait la commission parlementaire qui s'installait. J'ai tout raconté. Quand on m'a demandé des noms, j'ai dit non. Il y en avait trois qui étaient morts. Il y avait un vivant. Et lui, je n'ai pas dit son nom parce que je ne sais pas quoi. C'est parce que j'ai eu peur de lui. Il m'avait tellement fait peur quand j'étais môme que je me suis dit, 60 ans après, c'est quand même cinglé, quoi. Il a voulu me tuer deux fois. Je me suis dit, si je donne son nom, qu'est-ce que ça va devenir? Enfin, nous parlons tous, en fait, de la même chose. Et c'est ça qui est à la fois terrifiant et magnifique.
Dans l'entourage familial de celles et ceux qui ont été victimes d'agressions sexuelles par des religieux, on ressent aussi une grande souffrance. Ce sont les victimes collatérales. Au cours de cette journée mémorielle, de nombreux jésuites étaient venus pour se tenir aux côtés des victimes et pleurer avec elles. Et pour Jean-Marc Turine, ces jésuites qui ne sont pas coupables d'abus sexuels, eux aussi peuvent être considérés comme des victimes collatérales de ces agresseurs sexuels qui ont défiguré leur propre congrégation.
Les jésuites sont aussi des victimes collatérales de ce qui s'est passé avant. Ceux d'aujourd'hui sont victimes comme nos conjoints, comme nos enfants. Et c'est pas pour rien que des jésuites ont pleuré aussi. C'est parce qu'il y a quelque chose de tellement inouï, insensé qui s'est passé dans leur compagnie. Quand j'ai vu le pape, je lui ai dit, je me souviens de mon éducation catholique quand même. Et c'est quoi? Quand le prêtre tend l'hostie qu'il la brise, et prenez et mangez. Ceci est mon corps. Il lève le calice, il le bénit et il dit, buvez, ceci est mon sang. Et que les mêmes mains vont te tripoter le sec des petits mots. Mais comment imaginer ça? C'est inimaginable. Eh bien, je pense que c'est ça aussi, la manière dont il faut considérer les jésuites d'aujourd'hui, ceux qui veulent bien prendre conscience d'une réalité, c'est que ce sont des victimes collatérales.
Le supérieur provincial jésuite Thierry Doppelstein insiste sur ce qui a changé depuis plusieurs années maintenant, les formations obligatoires à la prévention des abus sexuels et spirituels pour tous les jésuites qui résident dans sa province, France, Belgique, Luxembourg, Grèce et Maurice, mais il évoque aussi la diffusion des noms des agresseurs.
Ça concerne chacun qui doit pouvoir se contrôler et garantir que les comportements qu'il a vis-à-vis des personnes qui se confient à lui soient opportuns, mais ça suppose aussi... Quand je reçois un témoignage ou un demi-témoignage, qu'est-ce que j'en fais? Il y a une tentation qui est très grande, c'est de mettre la tête dans le sable comme une autruche. Et au fait, il faut faire exactement l'inverse. Il faut avoir l'attention attirée et dire, oula, Là, il y a des choses que je ne peux pas faire ou que je ne peux pas oublier. Il s'agit d'avoir la bonne parole qui dit à la personne, parlez de cela. Et si c'est difficile pour vous, je vais vous aider à le faire. On va aller le faire ensemble. Le point qui va pour moi être un chantier assez important dans les prochaines semaines, c'est la question justement du nom des jésuites agresseurs. Au cours de cette journée, donc, un certain nombre de personnes victimes, pas toutes, mais un certain nombre, ont choisi, ont décidé, pas seulement de témoigner, mais de le faire en citant le nom de leur agresseur. Nous venons d'entendre Jean-Marc Turine, il a parlé de son livre. Si vous lisez son livre, vous verrez qu'il ne nomme pas ses agresseurs. Il se contente d'initiales. Aujourd'hui, il a cité les quatre noms. Eh bien, ça, fatalement, c'est un chantier incroyable pour nous. C'est qu'est-ce que nous faisons de cela ? Parce que jusqu'à présent, nous avons dit, quand les personnes victimes nous disaient « publiez le nom de mon agresseur », on disait « nous attendons que vous-même vous rendiez ce nom public ». Et nous n'allons pas le renier, alors à partir du moment où vous avez fait le pas, ben oui, nous publierons à notre tour ce nom. Aujourd'hui, ben, il y a un certain nombre de noms qui ont ici été publiés, et donc la balle est maintenant dans notre camp pour ce point-là. Sur ce, je ne sais pas encore mesurer ce que tout cela signifie. Voilà. Nous ne gérons pas les problèmes, on va construire, on va continuer à construire ensemble.
Comment dire et publier les noms des agresseurs ? Le sujet est encore délicat au sein de l'Église catholique. Le Vatican a d'ailleurs publié fin février 2025 une directive qui indique que le droit canonique décourage les diocèses de publier la liste des religieux accusés de manière crédible d'abus sexuels pour ne pas risquer d'entacher leur réputation. Le travail n'est donc pas terminé. Cette journée mémorielle à Paris était un pas important pour celles et ceux qui ont pu y participer comme Bimal et son amie et confidente Claire, même si le chemin est donc encore long.
Ça m'a fait du bien aussi, je pense que c'est important que la victime se retrouve entre elles et puisse parler. Maintenant, la dernière victime qu'on a vue, là, je reste avec un sentiment de colère, ouais. Parce qu'il a été abusé il y a une dizaine d'années seulement, et qu'on apprend que son prédateur est toujours à la pérenne. Et la Pérelle, c'est un centre de jésuites encore actif. Or, pour moi, alors qu'on sait que ce jésuite a abusé d'une dizaine de jeunes, il devrait juste être défroqué et passé au tribunal. Voilà. Et donc là, je suis avec un sentiment de colère juste à la fin, en me disant, mais non, n'ont pas encore compris, en fait. Non. C'est pas normal qu'il reste en fonction. Il doit être défroqué, il doit plus faire partie des jésuites, de la compagnie des jésuites, il devrait, voilà.
Et donc ça ne va pas assez loin.
Ah non, ça ne va pas assez loin. Bon, ici, son prédateur à lui est en maison de repos, il est en fin de vie, enfin, voilà, il est en fin de vie. Mais l'autre, il a 72 ans, il est encore en fonction à la pérenne, mais c'est quoi ? Enfin, non, ça ne va pas assez loin. C'est un centre mais où il y a encore des retraites faites pour les gens. Donc il est en contact avec... il n'est pas du tout
inquiété,
alors qu'on sait qu'il a abusé d'une dizaine d'enfants. Donc là, ça ne va pas assez loin. Ça devrait être beaucoup plus radical.
Ben, je suis aussi déçu qu'elle d'avoir appris ça. Et j'ai pris son numéro à ce jeune, parce qu'il habite aussi Bruxelles. Et il était aussi au collège Saint-Michel. Il s'est fait aussi abuser par un jésuite du collège Saint-Michel. Et là, je vais l'aider aussi dans les démarches. Je vais essayer de le pousser à ce qu'il se batte aussi, parce qu'il faut que ce genre de choses stoppent, arrêtent. Un enfant doit vivre son enfance. Moi, mon enfance, on me l'a volée. On me l'a volée parce que bon, j'étais battu depuis que je suis arrivé en Belgique, depuis l'âge de 6 ans par mon beau-père, jusqu'à mes 15 ans, jusqu'à ce que j'ai la mâchoire cassée, parce qu'elle m'a cassé la mâchoire, et voilà quoi. Et
ça, il faut dire aussi que Marc de Clercq a joué de ça, parce qu'en fait, quand il était battu, il allait se protéger chez Marc de Clercq, qui lui donnait de l'argent puisqu'il vivait en rue, donc il savait qu'il fuguait. Mais il ne prévenait pas les parents qu'il l'avait vu alors qu'il était encore mineur, mais lui donnait de l'argent pour qu'il sache se débrouiller. Mais en compensation, il devait faire ce qu'il voulait. Hein.
L'important pour Bimal, c'est de continuer à en parler. Et il lance un message à toutes celles et ceux qui ont pu subir ces violences sexuelles dans l'Église, partout dans le monde, sur tous les continents. Un appel à dénoncer ces actes terribles.
Il ne faut pas qu'ils aient peur, parce que ce que les adultes font aux enfants, ce n'est pas la faute des enfants. Ils ne doivent pas avoir peur. Il faut qu'ils aillent trouver quelqu'un de confiance et qu'ils en parlent à la police, à leur tante ou à leur grand frère ou à quelqu'un de confiance en qui ils ont vraiment confiance. Voilà, et je crois que ces choses-là pourront être éradiquées petit à petit. Si tout le monde fait ça, si tout le monde dénonce, ben je crois que ça devrait diminuer grandement.
Thierry Doebelstein, le supérieur provincial des jésuites d'Europe occidentale francophone, a lu la lettre envoyée par Arturo Sosa, le supérieur général de la Compagnie de Jésus au niveau mondial. Celui-ci formulait une demande de pardon à toutes les personnes victimes d'agressions sexuelles commises par des jésuites et à tous leurs proches pour toutes les souffrances subies et le manque d'empressement à les croire et à les soutenir. Une demande de pardon reprise en son nom propre par le provincial de la Compagnie de Jésus, Thierry Doebelstein. Christine, que nous avons entendue aussi dans cette émission, qui a participé à l'élaboration de cette journée mémorielle à Paris avec d'autres victimes d'abus sexuels, ne voudrait pas s'arrêter là. Il faut continuer et diffuser ces messages partout dans le monde.
On a demandé qu'il y ait une suite, parce que pour nous, c'est juste impossible de se séparer comme ça. Essayer de faire un jour peut-être le point de ce qu'on a vécu. Et puis, il y a des projets, effectivement, d'autres temps mémoriels dans des collèges, travailler le préventif aussi, voilà. Je crois que c'est du vrai militantisme, on ne peut pas rester avec sa petite satisfaction, il faut aller au-delà, plus loin.
Un message peut-être à des personnes qui nous écoutent, RFI diffuse un peu partout dans le monde.
Oui, mais il faut que les portes s'ouvrent, on ne témoigne pas n'importe où, n'importe comment, il faut que les portes s'ouvrent, qu'il y ait les personnes qui partagent votre indignation, qui partagent votre souffrance vraiment et qui cherchent à avancer avec vous et qui aident à la reconnaissance, à la réparation et surtout à dénoncer. Et on sait très bien que dénoncer des personnes, ça reste très très difficile. Il y en a qui sont protégés, il y en a qui se défendent, qui disent que c'est du mensonge. Voilà, c'est pas évident, je sais. Voilà, il faut poursuivre, bien sûr.
Car en effet, sur d'autres continents, il n'est pas facile de parler de ces agressions sexuelles dans l'Église. Comment faire? Eh bien, c'est aussi ce message que lance le supérieur provincial d'Europe occidentale francophone, Thierry Doebelstein.
Je peux dire que le supérieur général veille à ce que le travail que nous faisons ici en France, en Belgique francophone, se fasse dans toutes les provinces du monde. Donc toutes les provinces du monde sont engagées dans un processus de justice et de vérité, et aussi de prévention. Donc chacun des provinciaux, il y en a 70, il y en a 70 dans le monde, sont soumis, je dirais, aux mêmes exigences que moi-même. C'est donc la même politique qui doit prévaloir partout. Donc je ne peux qu'inciter des personnes qui auraient été victimes de jésuites, quel que soit le pays, à s'adresser au supérieur provincial de la région concernée. Et lorsque le témoignage est transmis, nous demandons des garanties au supérieur provincial qu'il a bien reçu le message et qu'il y donne suite.
Être écouté, être cru, pouvoir dénoncer pour éviter de nouvelles victimes et pouvoir se reconstruire, recoller les morceaux. C'est aussi ce qu'a initié l'Église protestante de France qui a adhéré à la CRR, la Commission Reconnaissance et Réparation, et qui met depuis début mars 2025 à disposition un numéro d'appel pour les victimes et témoins de violences au sein du protestantisme. C'est la fin de cette émission. Merci aux personnes victimes d'avoir témoigné, Christine, Jean-Marc, Roland, Bimal et à leurs proches, au supérieur provincial d'Europe occidentale francophone, Thierry Doebelstein, et à la responsable de la cellule Écoute des victimes, Agnès Delépine. Vous pouvez réécouter cet épisode sur le site de RFI, l'appli Pure Radio ou les réseaux sociaux à la page Religion du Monde. À la semaine prochaine et tout de suite, le journal sur RFI.